Clémence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le logement, premier poste de dépense des Français, mais le quinquennat Macron ne s'en est jamais emparé. Constat cinglant de la Fondation Abbé Pierre dans son rapport annuel, détail dans un instant. La levée des restrictions, télétravail, jauge et masque à l'extérieur, on va pouvoir s'en passer à partir d'aujourd'hui. Mais pourquoi le Covid fait-il tous les jours autant de morts alors qu'Omicron est moins dangereux? Explication à suivre. Dans ce journal aussi, Emmanuel Macron qui attend l'apaisement de la crise ukrainienne en plus de celle du Covid pour se déclarer candidat. Ukraine, le danger d'intervention russe est clair et imminent, vient de dire Jean-Yves Le Drian. Nous serons à Sébastopol en Crimée et on en parlera ensuite dans le grand entretien, Nicolas.
Oui, en forme de table ronde aujourd'hui, vous l'avez dit Florence, Mali, Ukraine, bilan diplomatique d'Emmanuel Macron. Trois invités, Michel Duclos, Isabelle Lasserre et Benjamin Haddad. Et toutes vos questions au standard, 01 45 24 7000.
Mais quel est donc ce bruit non identifié? Ça siffle à Wizerne, dans le Pas-de-Calais. C'est insupportable, personne ne sait d'où ça vient, on ira se rendre compte par nous-mêmes.
France Inter.
Inlassablement, depuis 27 ans, la Fondation Abbé Pierre dresse l'état du mal-logement en France, alertant avec ténacité sur l'augmentation du nombre de sans-domicile. On en est à 300 000, c'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Mais le logement, quand on en a un, c'est d'abord la première dépense contrainte des Français, avec des aides qui baissent, des loyers qui augmentent et jamais assez de logements sociaux. De ce point de vue-là, le quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur. Claire Chaudière, voilà ce que dit la Fondation dans son rapport publié ce matin.
L'association a sorti la calculatrice. En 5 ans, ce sont 15 milliards d'euros de coupes budgétaires qui ont été réalisées en ponction sur les bailleurs sociaux ou les APL. Quant au choc de l'offre promis sur la construction de logements, il n'aura pas eu lieu. Les chiffres ont clairement chuté. La faute aux élections municipales, répondra tout à l'heure le président, dont l'entourage souligne par ailleurs que les courbes commencent à s'inverser. Autre constat du rapport, 3 ans après l'effondrement de plusieurs immeubles à Marseille, le logement indigne n'a que trop peut régresser, même si les plus grosses copropriétés dégradées sont désormais accompagnées. C'est très en demi-teinte aussi sur l'hébergement d'urgence. Fini la gestion dite au thermomètre et la fermeture des lits l'été, c'est bien. Mais en décembre dernier, 4000 naufragés du 115 sont tout de même restés sans solution. Il faut enfin accélérer, généraliser un encadrement des loyers bien trop timide dans les grandes villes. Indispensable, conclut le rapport, alors que les préoccupations montent sur la question du pouvoir d'achat et de la dépense contrainte majeure que constitue le logement.
La France compte 4 millions de mal logés, habitats indignes, précarité énergétique. Plus de 2 millions de foyers sont en attente d'un logement social, notamment ceux qui redoutent de perdre le leur. L'espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre à Paris envoie défiler chaque jour des histoires de vie, de peur et d'attente. Agathe Mahuet.
Vous auriez dû déjà quitter les lieux le 1er août.
Donc elle ne cesse de s'excuser d'être là. Asma, 36 ans, menacée d'expulsion car sa propriétaire veut vendre l'appartement.
Ça me met même mal à l'aise par rapport à elle.
Son mari est chauffeur de taxi. 1500 euros de ressources pour 4, bientôt 5. Asma est enceinte et toujours pas de réponse pour un logement social qu'elle demande depuis 9 ans. Alors elle reste.
Voilà. On n'a pas trouvé d'autre moyen de se reloger vu les loyers à Paris qui sont exorbitants. Sinon, avec grand plaisir, hein, si c'était aussi simple, je pense que les gens ne s'amuseraient pas à rester dans les lieux. On ne fait vraiment pas de gaieté de cœur.
Elle vous demandera d'aller à l'audience.
Bientôt, il faudra aller au tribunal. Ce risque d'expulsion concerne 80% des gens reçus ici, dit le responsable Samuel Mouchard. Face à cela, le parc social est complètement insuffisant à Paris.
Sur plus de 200 000 demandeurs de logement social, il y a à peine 10 000 logements qui sont attribués chaque année. C'est une grande difficulté, une source de stress très importante pour cette personne qui paye son loyer, qui souhaite juste trouver un autre logement qui convient à sa famille et à ses ressources.
La solution pour la Fondation Abbé Pierre, construire en urgence 150 000 logements sociaux dans toute la France.
Et pour répondre à la Fondation, la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon, sera l'invitée du 13-14 de France Inter.
Il est 8h05, Florence, et cette fois-ci, on y est.
Ce mercredi sonne la fin du télétravail obligatoire, du masque à l'extérieur et de la limitation des rassemblements. Levée des restrictions et des jauges qui avaient une nouvelle fois pesé sur le monde du spectacle. Mais les organisateurs de concerts devront encore attendre 15 jours avant de pouvoir de nouveau accueillir du public debout, Mathieu Culeron.
Pour les professionnels de la musique, la levée des restrictions sur les jauges ne va pas changer grand-chose. Thierry Langlois est directeur de la société Unité qui fait tourner Isia ou encore Vitalik.
Pour l'instant, ça concerne assez peu de concerts. La plupart sont déjà annulés et vont l'être encore jusqu'au 16 février où là, cette fois, les concerts debout sont de nouveau autorisés et sans jauge. Les gens aujourd'hui se projettent plus dans 3, 4, 5, 6 mois que la semaine prochaine. Quoi.
Même ambiance du côté du Zénith où 80% des concerts se font devant un public debout. Lily Fischer est directrice du Zénith de Paris.
Ça nous permet d'accueillir le spectacle des Baudins vendredi, samedi et dimanche. Par contre, c'est vrai que pas mal de spectacles sont prévus chez nous avec un parterre debout. D'habitude, on fait 150 représentations par an. Là, on en a fait 17.
Après tant d'incertitudes, certains voient un retour à la normale dans plusieurs années. C'est le cas de Christian Alex, directeur artistique pour le Cabaret Vert.
Il y avait quelques experts de musique aux États-Unis qui, en 2020, avaient dit que c'était mort et que tout n'allait pas repartir avant 2024-2025. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est juste impossible ce qu'ils sont en train de dire. Et en fait, ils n'avaient pas tellement tort. Parce que je crois que là, on est parti pour reconstruire notre métier jusqu'en 2024, jusqu'en 2025.
Les salles de concerts qui resteront très vides jusqu'au retour d'un public debout le 16 février prochain.
Et dans 15 jours aussi, la réouverture des discothèques, le retour du café ou de la bière au comptoir et des sandwichs dans les trains. Alors que la situation sanitaire ne change pas franchement, contamination massive, encore 416 000 hier, presque 34 000 patients Covid à l'hôpital et pas loin de 400 décès en 24 heures. Pourtant, Omicron est moins dangereux que les variants précédents, c'est pour ça qu'on lève les restrictions. Alors pourquoi toujours autant de morts du Covid ? Explication signée Véronique Julia.
Un regard optimiste voudrait en effet qu'Omicron soit moins grave et donc que la mort ne soit plus au rendez-vous. Mais le virus continue de tuer avec plus de 1800 décès durant la semaine écoulée. La majorité sont liés à Omicron et ce chiffre est en hausse par rapport à la semaine précédente. La hausse est d'ailleurs continue depuis la mi-novembre. C'est un chiffre tout proche de ce qu'on avait atteint lors des vagues de l'hiver et du printemps dernier. On avait à l'époque une moyenne de 300 décès par jour, mais seulement 16 à 35 000 cas quotidiens. C'est-à-dire 10 à 20 fois moins de cas qu'aujourd'hui. Moins sévère, mais sur beaucoup plus de cas, même avec une population très vaccinée. Omicron fait donc quand même beaucoup de victimes, des non-vaccinés surtout, ou des vaccinés sans la dose de rappel, beaucoup d'immunodéprimés aussi, sur qui vaccination et traitement préventif ne sont pas efficaces ou beaucoup moins avec Omicron. La plupart du temps, c'est le Covid et sa pneumonie qui tue. Dans certains cas, malgré tout, il n'est pas seul en cause, mais l'infection accentue un état de fragilité préexistant. Sachant que les cas graves restent en réanimation plusieurs semaines, la courbe des décès ne devrait pas s'inverser brutalement. Et les médecins rappellent que diminuer la circulation virale reste le meilleur moyen de protéger les plus fragiles.
Et les personnes immunodéprimées, premières victimes du Covid, vont pouvoir à partir d'aujourd'hui se procurer des masques FFP2 gratuitement en pharmacie avec une ordonnance de leur médecin. Aux États-Unis, les tout petits enfants de 6 mois à 4 ans seront-ils les prochains vaccinés ? Pfizer a lancé des demandes d'autorisation pour son nouveau dosage de vaccin. Et puis à l'étranger encore, le Québec renonce à taxer les non-vaccinés face à la fronde. Et puis les îles Tonga entrent en confinement après la découverte de deux premiers cas de Covid. Deux travailleurs du port où l'aide humanitaire est arrivée après l'éruption volcanique et le tsunami dévastateur du mois dernier. Était-ce un coup d'état de plus ? En Afrique de l'Ouest, il a échoué, en tout cas hier en Guinée-Bissau, où le président et ses ministres ont été retenus plusieurs heures sur fond de tirs nourris à l'extérieur du palais du gouvernement.
Et eux, 8h08, Florence, vont-ils en rester là ?
Les Russes qui font planer la menace depuis des semaines, attaquer l'Ukraine si l'Occident ne répond pas aux demandes de Vladimir Poutine. Il n'avait pas hésité à annexer la Crimée en 2014, région ukrainienne russophone dont les habitants soutiennent Moscou, même si l'hypothèse de la guerre ne les laisse pas sereins. Envoyé spécial à Sébastopol, Sylvain Tronchet.
Pour les Russes, la Crimée, c'est d'abord Sébastopol. Plus de deux siècles que la flotte de la mer Noire y est stationnée. Vladimir est incollable sur les portées des missiles, les sous-marins. Nous partons avec lui faire un tour au milieu de ces navires, actuellement en état d'alerte.
Nous avons de nombreux navires qui contrôlent la zone de la mer Noire. La flotte de la mer Noire a toujours été implantée ici. Et de tout temps, la Crimée et Sébastopol ont suscité la convoitise. Mais dommage pour eux, la flotte restera ici pour toujours.
Eux, ce sont les Ukrainiens et leur gouvernement, pour lequel Volodya n'a aucune sympathie.
La politique que mène l'Ukraine n'a aucun avenir. Je veux dire le gouvernement ukrainien. La russophobie, la Russie est responsable de tous leurs problèmes. Pour moi, il faudrait peut-être regarder ailleurs.
Ailleurs, en clair, plus à l'ouest. Pour la plupart des habitants, l'Occident est responsable de cette situation, explique Alexandre.
Ceux qui provoquent la tension, ce sont la France, l'Angleterre, l'Amérique. L'Ukraine n'y est pour rien.
Malgré tout, la perspective d'une guerre reste un dilemme pour beaucoup, comme Oleg, un jeune qui étudie le français.
Pour moi, c'est inadmissible d'imaginer la guerre entre ces deux pays parce que j'ai des proches en Ukraine. Ma grand-mère, mon grand-père, mes tantes, pour moi, c'est difficile à comprendre que les Russes pourraient des tués.
La guerre, malgré les tensions, personne ne veut y croire ici. Sébastopol, Sylvain Tronchet, France Inter.
La crise ukrainienne qui entre désormais dans les calculs politiques d'Emmanuel Macron. Il attendra que le pic de cette crise soit dépassé, comme pour le Covid, avant de déclarer officiellement sa candidature à sa réélection. Voilà ce qu'il dit dans La Voix du Nord ce matin. Président jusqu'au bout, répète-t-il, au risque de lasser jusque dans ses propres troupes, Yael Gauze.
Être en surplomb, c'est un confort dont il ne faut pas trop abuser, s'alarme un macroniste de la première heure et qui ajoute « L'impact des interviews présidentielles est de plus en plus faible car c'est le candidat qui est attendu. Jusqu'à quand va-t-on taper sur le tambour en attendant la vedette ?» s'interroge un cadre de La République En Marche. Le tambour, c'est cette campagne numérique surprise avec vous, les jeunes avec Macron qui déroulent leurs propositions, les selfies des élus En Marche qui envoient leur parrainage, les post-it du président sur son bilan distillés sur son compte Twitter. Mais la confrontation, la vraie, c'est pour quand ses adversaires tournent en rond et rêvent de le provoquer en duel.
Moi, je demande solennellement un débat avec Emmanuel Macron.
Valérie Pécresse, dimanche sur France 3.
Refuser le débat avant le premier tour, c'est archaïque.
Et pour Marine Le Pen, c'est clair, pas de débat avant le premier tour si Emmanuel Macron n'y participe pas. Que répond l'intéressé ? Covid, crise en Ukraine, il faut présider jusqu'au bout. Éloge de la patience, relayé par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Les Français ne comprendraient pas que là, le président s'exprime sur la campagne électorale.
Mais attention au cercle vicieux, si la campagne patine, si les propositions n'impriment pas, c'est aussi parce que sur scène, il manque l'acteur principal. Plus il attend et plus il devra taper fort, prévient un responsable de la majorité, dire pourquoi il faut un Macron 2, faire de cette candidature un événement, alors que le mot d'ordre jusqu'à maintenant était de la banaliser.
En attendant, Emmanuel Macron a prévu une journée dans les Hauts-de-France où l'annonce de 1200 emplois créés dans une future usine de batterie bas carbone à Dunkerque vient de tomber. Projet de la start-up Vercor. Le président, lui, sera juste en dessous, dans le bassin minier, pour annoncer de nouvelles subventions de l'État. Puis direction Tourcoing pour parler immigration et réforme de Schengen avec les ministres européens de l'Intérieur. L'immigration par tous les moyens, cette région des Hauts-de-France, en est le témoin quotidien. Les sauveteurs de la SNSM viennent de dévoiler leur bilan. Et c'est bien simple, Ajra Mohamed, le sauvetage des migrants sur les côtes du Nord est devenu leur principale activité.
Jamais les sauveteurs en mer des Hauts-de-France n'avaient eu autant de migrants à secourir. En 2021, ces sauvetages représentaient même 80% de leurs interventions en mer, précise Bernard Baron, le président de la SNSM de Calais.
Au total, on a fait 216 interventions de secours en mer. Et sur ces 216 interventions en mer, nous avons assuré 150 opérations pour des migrants. Les chiffres ont été décuplés en un an de temps.
Bernard Baron et ses collègues sauveteurs ont ainsi secouru plus de 2500 personnes, parfois dans des conditions très difficiles et avec des images qui restent en tête.
La semaine dernière, on a été chercher un bateau rempli d'eau avec une trentaine de personnes dedans. Il y avait une femme enceinte, elle était à terme de 7 jours. On avait un petit nourrisson d'un an et on avait deux petites filles de 6-7 ans trempées dans des bateaux qui prennent l'eau de partout. C'est choquant.
Impossible aussi d'oublier ceux qu'on ne sauve pas, comme les 27 migrants morts lors d'un naufrage fin novembre au large de Calais. Les sauveteurs de la station locale avait repêché 6 corps. Bernard Baron était là. Il sera là encore demain s'il le faut pour éviter de nouveaux drames.
Nous, notre devise, c'est pour que la mer n'ait jamais le goût des larmes.
En France, ils sont 9000 sauveteurs en mer, 9000 bénévoles mobilisés 24 heures sur 24, 365 jours par an.
Ajra Mohamed, voilà qui va soulager les franciliens dont les véhicules sont classés critère 3. Initialement interdit de circuler à l'intérieur du périmètre de l'A86 à partir du mois de juillet, la métropole du Grand Paris a décidé de repousser l'échéance à début 2023, voire plus tard. Argument, il faudrait un prêt à taux zéro pour aider les ménages les plus modestes à se payer une voiture propre et puis homologuer des radars pour faire appliquer l'interdiction aussi. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit ? C'est la question que tout le monde se pose à Wizerne, dans le Pas-de-Calais. 3300 habitants depuis fin octobre. Un sifflement qualifié de BNI, bruit non identifié, leur empoisonne la vie. Mystère à Wizerne, c'est un reportage de Delphine Evenou.
Petite rue de maison mitoyenne en briques, Morissette et ses voisins échangent vidéos et recensements un peu particuliers.
6h30, 6h45, 7h30.
Les heures auxquelles ce mystérieux sifflement leur titille les oreilles.
Moi hier soir, j'ai...
Ah bah, écoutez.
Voilà, c'est parti. Vous l'entendez ? Et là, vous voyez, ça commence. Donc ça peut durer que quelques secondes, comme ça peut durer longtemps.
Jusqu'à une demi-heure, trois mois que ça dure, ils n'en peuvent plus.
C'est très 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 désagréable pour les oreilles.
C'est agaçant, c'est fatigant. Quand ça s'arrête, on a l'impression que c'est encore là.
Oui, c'est usant.
J'en attrape des migraines.
La mairie de Wizern est sur le dossier. François Segura, adjoint à la sécurité, enfile depuis quelques jours une casquette d'enquêteur.
Tout ce qui est machine industrielle s'est écarté. Après, ça pouvait être les canalisations de gaz. J'ai appelé Gaz de France et d'après eux, ce ne serait pas eux non plus. Hier, nous allons faire fermer les compteurs électriques aux riverains de façon à voir si ça ne viendrait pas non plus d'une chaudière. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire intervenir une société pour vérifier tout ça.
Des acousticiens qui vont déjà définir le périmètre de ce BNI, ce bruit non identifié, et tenter de résoudre le mystère. Et si les riverains gardent le sens de l'humour...
Il y aura peut-être une invasion extraterrestre.
Ils comptent beaucoup sur eux.
En attendant, c'est un enfer. Hein.
Merci Florence. Paracuellos, la météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Marie-Pierre, des grisailles en abondance dès ce matin.
Et oui, c'est plombé, Nicolas, à l'exception toujours des régions du sud, du Pays Basque, aux Pyrénées, à l'arc méditerranéen, aux Alpes du Sud, à la Corse, où le Mistral et la Tramontane soufflent encore très fort et vont dégager le ciel. En revanche, on a encore quelques faibles pluies du nord-est au centre-est, avec un peu de neige sur le Jura et le nord des Alpes, au-dessus de 1000 mètres. Sur la moitié ouest, le ciel reste encore chargé, sans pluie, avec quelques brouillards sur le Limousin jusqu'au Cantal. Et ce matin, c'est très doux, avec quelques exceptions comme à Corté en Corse et sur les hauteurs du Gard, où on relève moins 3 degrés. Contraste avec les 15 relevés à Saint-Tropez. Il fait 3 en Haute-Loire, 10 en Île-de-France, 9 à Lille, à Strasbourg ou Bordeaux et 12 à Perpignan.
Et un peu plus d'éclaircies sur l'ouest cet après-midi.
Oui, des Hauts-de-France aux plaines toulousaines. En revanche, les nuages domineront du nord-est au centre-est, mais les pluies vont se raréfier et le soleil va briller toujours du Pays Basque aux Pyrénées, aux Alpes, à la Méditerranée, sous un vent encore soutenu. Et le mercure sera très contrasté aussi entre les 7 degrés à Besançon et Ruillac, 9 à Nevers et les 18 à attendu à Nice ou Montpellier et les 20 à Bastia. Vous aurez 10 à Rouen, 11 à Lille, à Blois, Toulouse et Rennes, 12 à Paris, 9 à La Rochelle et Chambéry, mais 13 à Biarritz.
Merci Marie-Pierre Planchon. France Inter, 8h10.